14h04 sur France Inter, l'heure de la tête au carré avec vous Mathieu Vidard, bonjour.
Bonjour Élodie Forêt, à tout à l'heure. Imaginez notre planète aux premières heures de la vie, un lieu hostile et chaud, une atmosphère dépourvue d'oxygène et du gaz carbonique faisant baigner la Terre dans les plus acides. C'est dans ce contexte primitif que progressivement la vie a pu apparaître et la recherche sur les origines justement de la vie passionne les scientifiques depuis longtemps dans le but de reconstituer le scénario des premiers instants. C'est aujourd'hui le dossier de la tête au carré pour retracer un cheminement remontant à plusieurs milliards d'années et j'attends dès maintenant vos messages et vos questions pour nos invités. franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, peut-être la fin des polémiques sur la datation des peintures de la grotte Chauvet. Catherine de Coppet, bonjour.
Bonjour, une étude interdisciplinaire et internationale vient de confirmer les périodes de peuplement de la grotte dont la plus ancienne remonte à plus de 33 000 ans.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy en partenariat avec le cahier Sciences et Médecine du Monde. Voilà pour le sommaire de cette tête au carré orchestrée par Stéphanie Texier et préparée par François Mercier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Comment la vie a émergé? C'est donc le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités, les géologues Abderrazak El Albani et Alain Meunier. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux. Abderrazak El Albani, est-ce que la vie est apparue au Gabon, là où vous travaillez?
La vie n'est pas apparue au Gabon. En revanche, la vie multicellulaire complexe est apparue au Gabon il y a 2,1 milliards d'années.
Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, quand même. Jusqu'à... Ça, c'est la science.
Évidemment, hein. Évidemment.
Ce sont les preuves que vous avez apportées, absolument. Mais évidemment, tout peut être modifié absolument. En fonction des découvertes.
Tout à fait.
Alain Meunier, quel est le scénario le plus solide aujourd'hui, justement, sur l'émergence de la vie sur Terre parmi toutes les théories qui existent?
La Terre, c'est la planète où on est à peu près sûr que la vie soit apparue, puisque nous parlons tous les deux.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Mais de quelle planète parle-t-on quand on s'adresse à 4 milliards d'années ou même encore plus vieux? Parce qu'en fait, on sait maintenant que les traces probables les plus anciennes du biotique, c'est-à-dire des traces de carbone dopées par la vie, ça remonte à 4,1 milliards quelque part dans des inclusions de graphite piégées dans un zircon au nord du Québec.
Mais comment ça arrive tout ça alors?
Ça arrive, alors on va raconter des histoires improbables parce qu'évidemment on n'en a que très très peu de traces.
Ouais.
Il faut d'abord que la Terre soit ensemencée de carbone, voire même de molécules. Et les derniers travaux qui ont été publiés par l'équipe de Nice sont absolument fantastiques puisqu'ils montrent que la chimie à 3 degrés K dans le cosmos est capable de faire des composés complexes.
Bon, on en discute ensemble dans un instant.
J'étais trop long.
Il y a beaucoup de pistes à explorer, mais on aura tout le temps dans un instant justement. Avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Une chronologie précise du peuplement de la grotte Chauvet-Pont d'Arc à la une de la science aujourd'hui.
Au début de l'hiver 1994, en Ardèche, dans le sud de la France, trois spéléologues découvrent l'entrée d'une grotte fermée par un éboulis. Derrière cet éboulis, la grotte recèle de très nombreux points rouges et plus de 400 dessins et peintures représentant 14 espèces animales. À la stupéfaction générale, les datations au carbone faites sur les peintures révèlent que ces œuvres ont été réalisées il y a 36 000 ans.
Extrait d'un documentaire « Les génies de la grotte Chauvet ». On parle donc de 36 000 ans pour l'âge des peintures de la grotte. Et c'est ce que confirme l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, Catherine de Coppet.
Oui, Mathieu, en tout cas pour certaines d'entre elles, ces travaux publiés dans la revue américaine PNAS proposent une chronologie précise des périodes d'occupation de la grotte à quelques milliers d'années près, ce qui est quand même beaucoup. La plus ancienne serait comprise entre 37 000 et 33 500 ans.
Allez, pour nous détailler cette actualité, nous sommes en ligne depuis l'Ardèche avec Anita Quiles. Bonjour à vous.
Bonjour.
Non loin de la grotte Chauvet, vous y étiez encore ce matin, c'est ça, chanceuse que vous êtes.
J'y suis encore.
Vous y êtes encore, voilà. Vous êtes responsable du pôle archéométrie à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire et vous faites partie des chercheurs qui ont mené cette étude. Et puis nous filons également en Guyane, où nous retrouvons Laurent Brussel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géo-archéologue et membre de l'INRAP. Alors, en quoi cette étude apporte quelque chose de nouveau par rapport aux datations déjà réalisées, Anita Quiles?
Parce qu'en fait, cette étude, c'est la première fois qu'on est en mesure de proposer une chronologie qui, en fait, va nous donner des âges de temps qui sont exprimés dans notre échelle à nous. C'est-à-dire qu'avant, les datations radiocarbone donnaient des âges dits radiocarbone, et il faut les calibrer pour pouvoir les convertir et les ramener dans notre temps à nous. Ça, c'est possible via un travail de calibration qui est mené à l'échelle internationale, qui est lié à notre discipline. Et jusqu'à 2009, il était impossible de calibrer les datations de la grotte Chauvet, c'est-à-dire que les datations qu'on donnait étaient des âges que l'on appelle radiocarbone. Mmh. En 2009, il y a une publication d'une nouvelle courbe de calibration qui s'étend sur tout le champ d'application de la méthode. Et à partir de là, on est capable de convertir les âges C14, donc issus de la mesure physique, en des âges qu'on va dire calendaires. Et donc, c'est la première fois que maintenant, on peut proposer des périodes de fréquentation de la grotte humaine et animale qui sont en lien avec notre propre temps à nous. Donc quand on dit 36 000 ans, ça veut vraiment dire il y a 36 000 ans. Non.
Et sur combien d'échantillons de la grotte vous avez pu travailler pour faire cette déduction ?
Donc là, l'étude, elle est menée au total sur plus de 300 échantillons, sachant qu'il y en a 200, à peu près plus de 200 qui ont été faits par la méthode du C14, mais l'étude n'inclut pas que les datations radiocarbone. Ouais. C'est vraiment une étude multidisciplinaire où on a développé différentes techniques de datation qui existent aujourd'hui pour vraiment combiner en fait l'ensemble des informations chronologiques qu'on est en mesure de construire du point de vue humain, du point de vue non humain et environnemental. Et on a vraiment voulu proposer un modèle chronologique, c'est vraiment un schéma de l'histoire, restituer l'histoire de la grotte dans le temps, qui en fait est une concentration de l'ensemble des résultats de l'équipe scientifique de Chauvet.
Laurent Brussel, à partir de quoi on peut travailler pour justement dater précisément ? Il y a des analyses de charbon de bois, est-ce que vous pourriez expliquer les différentes méthodes qu'on a aujourd'hui à notre disposition ?
Oui, alors il y a plusieurs méthodes effectivement. La méthode C14 datée sur les charbons de bois, que ce soit des charbons qui étaient au sol ou des charbons qui ont été utilisés pour faire les dessins sur les parois. On peut aussi dater, c'est ce qui a été fait dans ce travail par la méthode uranium-thorium, la formation des planchers de calcite. Vous savez, dans les grottes, il y a des stalactites et des stalagmites qui se forment, et puis il y a des petits voiles de calcite qui vont venir recouvrir les sédiments. Cela permet aussi de dater, de savoir que tout ce qui est en dessous est plus vieux que ce plancher, c'est ce qui a été fait là. Il y a notamment des traces de feu aussi qui ont été étudiées contre les parois de la grotte. Et donc là, c'est la méthode de la thermoluminescence. Et puis alors, chose très intéressante dans le cadre de cette étude, c'est qu'on peut même un peu sortir de la grotte et que c'est l'évolution du porche et notamment les effondrements successifs qui ont été datés par la méthode des cosmogéniques. Donc là, ce sont des isotopes formés par le rayonnement cosmique sur les parois de la corniche. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en combinant tout ça, eh bien cette étude, et c'est là qu'elle est exemplaire, arrive à un scénario qui est tout à fait cohérent et homogène. Et voilà, tout ça correspond très très bien.
Anita Aquiles, vous avez réussi finalement à croiser des tendances statistiques avec des signes archéologiques sur le terrain ?
Oui, voilà. En fait, là, c'est la volonté qu'on a eue derrière cette étude, ça a été vraiment de rassembler des méthodes d'analyse et d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la grotte du point de vue des archéologues, mais savoir que c'est vraiment une équipe multidisciplinaire. Donc on a des paléontologues qui vont poser des questions sur les ossements, des géomorphologues qui travaillent, des pariétalistes. Et donc comprendre la fréquentation de la grotte, c'est aussi comprendre son environnement. Et maintenant, on a des outils statistiques qui sont relativement récents dans notre discipline de réussir à les appliquer. Mais en les appliquant, on est vraiment sur un modèle de cette grotte, enfin, l'étude de cette grotte devient un peu un modèle de ce type d'analyse qu'on peut faire qui vraiment donne de l'ambition pour l'avenir et pour les études de datation sur des sites aussi anciens que celui de Chauvet.
Laurent Brussel, justement, est-ce que avec cette datation de la présence humaine, on peut aussi superposer celle des représentations, des peintures sur les parois rocheuses ?
Ah ben là le lien a été fait, ne serait-ce parce que déjà certaines représentations sur les parois ont été datées directement par la méthode du C14. Et puis lorsqu'on combine les datations sur les parois, les datations des charbons au sol et des différents vestiges, les feux et l'histoire du porche, on est exactement sur les deux périodes d'occupation dans les deux cas. Donc il y a une cohérence tout à fait exemplaire, disons, dans ces datations et dans les représentations pariétales.
Anita Aquiles.
Oui.
Vous vouliez réagir ?
Non, c'est tout à fait ça. C'est qu'aujourd'hui, on se retrouve vraiment vers un scénario qui est vraiment cohérent, où on arrive à modéliser d'une part les fréquentations humaines, non humaines dans la cavité, mais en même temps, on a des événements géomorphologiques, des événements paléo-environnementaux qui nous montrent que la grotte, à partir d'un certain temps, est totalement fermée et que donc forcément, tout ce qui s'est passé dedans s'y est passé avant. Et maintenant, voilà, la chronologie est clairement établie.
Alors la chronologie, on l'a peut-être pas dit, hein, c'est deux périodes d'occupation environ il y a 37 000 ans et ensuite environ il y a 31 000 ans. Et alors ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, on disait que on se basait sur le style des peintures pour parler d'une progression finalement de l'art pariétal. Là, finalement, on voit que des peintures très anciennes peuvent être très très abouties stylistiquement. Hein. C'est ça aussi la révolution.
C'est exactement ça. Et l'art est très riche, l'art est très dynamique et il est très ancien.
Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Donc là, vous retournez dans la grotte Chauvenne, Itakiles.
On vous envie.
J'y retourne.
Ah oui, et on vous envie. Vous avez beaucoup de chance, ça c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné toutes ces informations. Et Laurent Bruxelles, bonne continuation. Qu'est-ce que vous faites en Guyane?
Bien, on fait avec mes collègues de l'INRAP, nous suivons une fouille, nous réalisons une fouille préventive dans le centre spatial guyanais.
Ah, donc, très bien. Voilà.
Bon, donc, alors attention. Au sein de la forêt.
Attention aux fusées qui décollent. À bientôt. Merci beaucoup.
Merci bien.
Bonne journée. Merci Catherine.
Merci.
À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des trous noirs alignés. Des astronomes sud-africains ont découvert que des trous noirs situés dans une même région de l'univers émettaient des ondes radio exactement dans la même direction, et ce grâce à 3 ans d'observation grâce au GMRT. C'est un radiotélescope basé en Inde. Phénomène qui n'avait jamais été imaginé ni simulé par aucune étude et qui serait dû à des fluctuations de la masse dans les premiers temps de l'univers. Les émissions radio de ces trous noirs supermassifs en disent un peu plus sur l'orientation des galaxies. La découverte, due donc à un hasard complet, ouvre des pistes de recherche prometteuses sur les origines de l'univers. Un sérum contre les piqûres d'abeilles bientôt testé sur l'homme. Ce sont des chercheurs brésiliens qui ont mis au point cet antivenin après 15 ans de travail. Ils viennent de recevoir l'autorisation du ministère brésilien de la Santé pour le tester sur des personnes. Dans 3 régions du pays, près de 15 000 piqûres d'abeilles sont recensées chaque année au Brésil, occasionnant une quarantaine de décès. En cas de succès des tests cliniques, ce sérum antivenin pourrait être exporté vers d'autres pays. Et puis l'air parisien un peu moins pollué. Sur 10 ans, la qualité de l'air s'est globalement améliorée, annonce Air Paris. Un résultat que l'on doit essentiellement aux mesures réglementaires et incitatives de réduction des émissions. L'association pointe une diminution des niveaux de dioxyde d'azote en 2015, favorisée par les bonnes conditions météo. De bons résultats qui ne doivent pas cacher une situation qui reste préoccupante. 5 polluants dépassent les niveaux réglementaires. Air Paris estime en outre à 1,5 million le nombre de franciliens particulièrement exposé à cette pollution. Et les origines de la vie, c'est notre dossier dans un instant avec tous vos messages.
Aimer sur un seul pied sans savoir où poser ses lèvres ou ses pensées. Si seulement j'avais, si seulement j'avais aimé mais d'un seul trait, avoir su proposer. Si seulement j'avais, si seulement j'avais. Avec le temps fort nécessaire, avec les yeux savoir où poser ses lèvres ou ses pensées. Si seulement j'avais, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains ça c'est les nerfs. Avec le temps fort nécessaire, avec le temps fort nécessaire, avec les yeux. Sans fort nécessaire. effort nécessaire. Avec les yeux sous la lumière, avec les mains, ça c'est les nerfs. Avec le temps fort nécessaire, avec les yeux sous la lumière, avec les mains, ça c'est les nerfs. Avec le temps fort nécessaire, avec le temps.
Et Louise attaque.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Les origines de la vie, une nouvelle histoire de l'évolution. C'est donc un livre qui paraît aux éditions Duno et je reçois deux de ses auteurs, les géologues Abderrazak El Albani et Alain Meunier avec nous. Vous êtes tous les deux professeurs à l'Université de Poitiers. Abderrazak El Albani, vous êtes spécialiste en paléo-environnement et Alain Meunier, spécialiste des roches argileuses. Vous avez écrit cet ouvrage avec votre confrère Roberto Macchiarelli et les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages. Beaucoup de questions déjà sur le site de l'émission, comme quoi ça passionne également le public, pas seulement les scientifiques. Vous êtes nombreux d'ailleurs, Alain Meunier, à travailler sur cette question des origines de la vie dans le monde ?
Nombreux, non. Mais de disciplines différentes, oui.
C'est ça, ouais.
Ça va des astrophysiciens qui analysent justement, on a expérimenté le Rosetta et sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Ouais. Là, on attendait beaucoup de cette histoire et il en sort beaucoup d'ailleurs.
C'est vrai.
Et ça va jusqu'à la chimie de laboratoire où on simule, comme on le disait en entrée tout à l'heure, la manière dont une comète peut évoluer dans un froid intense, simplement par des réactions activées par le rayonnement cosmique.
Ouais.
Et ça, c'est assez fabuleux.
Ça, c'est des choses qu'on fait en laboratoire
aujourd'hui. C'est une chose qui vient d'être faite, publiée récemment par le laboratoire de Nice, et il y a toute une équipe derrière, de l'IPG, enfin bon. Et c'est absolument passionnant. Alors, en ce qui concerne la Terre elle-même, bien sûr, tous ces gens qui viennent de la chimie ou qui viennent de la géologie ou qui viennent même de l'astrophysique essayent de coordonner les informations pour qu'on puisse avancer dans une nébuleuse particulièrement opaque.
C'est compliqué, question des origines.
C'est compliqué.
Il y a peu de preuves en plus.
Bien sûr, il n'y en a plus. Donc, il faut imaginer ce que cela a pu être.
Abderrazak El Albani, justement, en juin 2010, vous avez fait avec votre équipe la une de la revue Nature, en faisant reculer, on en a beaucoup parlé dans l'émission, de plus d'1,5 milliard d'années, l'apparition de la vie multicellulaire sur notre planète. Donc, c'était un énorme bond en arrière, qui a été rendu possible grâce à des sédiments, donc, que vous avez retrouvés dans le sol du Gabon. Vous avez participé à la réécriture, au fond, de tous les manuels scolaires, avec ce chapitre sur les origines de la vie. C'est quand même pas rien de faire ce type de découverte.
C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est indescriptible et puis c'est inattendu dans tous les cas de figure. On n'a jamais, quand on a été faire du terrain là-bas, on n'a jamais préparé, prémédité quoi que ce soit. On est parti juste pour faire de la géologie, commencer à le faire et pour reconstruire les paléo-environnements. Et donc c'était tout à fait par hasard qu'on a réussi à trouver des premières traces sur lesquelles on s'est posé des questions. Et à partir de ce moment-là, on s'est adressé à des spécialistes et puis c'est là où je dirais où les difficultés ont débuté parce que le registre biologique était complètement vide. Et donc, je passe les détails parce qu'il a fallu pas mal d'échanges, parfois houleux, parfois, voilà. Et donc, on y arrive, la science et les arguments finissent par vaincre. Et à partir de ce moment-là, le nombre de conférences, je suis toujours ravi de partager dans le monde, en France, dans les lycées, collèges ou dans les grandes institutions. Et à chaque fois, je suis interpellé, mais vous savez, on a changé nos cours, on a changé
grâce à vous.
Grâce à moi, grâce à ce qui est grâce à la découverte quoi. C'est ça qui est extraordinaire.
Mais c'est pas rien quand même dans la vie d'un chercheur quand ça se produit comme ça.
C'est vraiment quelque chose d'impensable, tout simplement et d'inimaginable.
Est-ce que cette zone du Gabon fait encore l'objet de toute votre attention ? Vous y retournez chaque année pour y chercher quoi d'ailleurs maintenant ?
Disons que on s'est pas focalisé seulement sur les fossiles, on a regardé tout l'environnement et on est dans une stratégie de publication régulière. On regarde aussi l'environnement. Qu'est-ce qui s'est passé pour enclencher un certain nombre de choses pour passer de l'une l'autonomie cellulaire ou multicellulaire. Ouais. Et pour moi, c'est là où il faudrait...
Et de la matière inerte à la matière vivante. Hein.
Voilà, donc, quelles sont les conditions physico-chimiques qui ont permis ça? Et les questions restent ouvertes. On n'a pas encore répondu à toutes les questions. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Ouais, il y a beaucoup de questions, justement, à ce sujet de la part des auditeurs. Je vais vous les transmettre dans un instant. Encore une question à la Meunier. Certains endroits de la planète sont plus intéressants que d'autres, justement, pour aller sur les traces des origines. Il faut les chercher où, alors? Parce que Abderrazak El Albani parle du hasard au Gabon, mais on va pas quand même totalement par hasard sur un lieu particulier.
Non, c'est vrai. Mais un des endroits les plus fabuleux de la planète actuellement, c'est ce qu'on appelle le Nouveau-Adjituk. C'est le pays des Inuits au nord du Québec. Mm-hmm. Et là, on y fait actuellement des découvertes fabuleuses, puisque les roches apparemment seraient les plus vieilles que nous ayons sur la Terre, 4 milliards 100, peut-être davantage. Donc voilà l'endroit où j'aimerais aller.
Pourquoi vous n'y êtes pas encore allé alors ?
Parce que la vie est courte, parce que les argiles qui sont ma spécialité, il y en a partout, je suis tiraillé partout, et que, en fin de compte, je ne suis demandé nulle part.
Oh, mais c'est terrible ça, mais je suis sûr qu'après cette émission, ça va changer. Alors, on va vous offrir un billet d'avion pour aller réaliser votre rêve au nord du Québec. Un autre endroit également très intéressant, comme on va l'entendre dans cet extrait pour aller sur les traces des origines de la vie, c'est le Groenland.
Les preuves de l'émergence précoce de formes de vie sont fournies par l'équipe de géologues qui étudie les plus anciennes roches de la planète dans les régions reculées du nord-ouest du Groenland. Stephen Mojesus recherche des traces révélatrices de la plus ancienne forme de vie sur Terre.
La géologie du Groenland est unique. Elle recèle les traces de certains des phénomènes les plus anciens de la planète. On estime que les roches elles-mêmes ont entre 3 milliards 700 millions et 3 milliards 900 millions d'années.
Dans ces roches qui ont été soumises à d'énormes bouleversements, les fossiles ont probablement été détruits. Aussi, Stephen recherche-t-il des traces de vie beaucoup plus complexes.
Les seuls vestiges qui nous restent sont des empreintes chimiques d'anciennes bactéries ou de microbes.
Voilà, le Groenland, Abderrazak El Albani, c'est un lieu intéressant aussi.
Très, très intéressant. Hein, très intéressant. Bon, c'est beaucoup plus vieux par rapport aux roches gabonaises.
Oui.
Et les roches gabonaises, ils ont quand même la particularité de représenter les roches les mieux conservées au monde de cet âge-là.
Alors, c'est ça. Il y a aussi la qualité de conservation.
Absolument.
Qui est très importante.
Tout le mérite revient à ça, finalement. Ouais. Parce que quand on a des roches qui sont fraîches et quand on est en face de ces affleurements, on se pose la question, est-ce qu'effectivement on est devant des roches de 2000 d'années, si on met un bandeau, on vous met là-bas, vous allez me dire c'est du Jurassique ou du Crétacé. C'est impensable.
Ah oui, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur le Mésozoïque, et je peux vous assurer, nous travaillons actuellement sur l'Ukraine qui est 600, 500 millions d'années. C'est une seconde période où la vie complexe va émerger, la faune d'Iliacara. Et les roches là-bas, elles sont en bon état de conservation, mais je vous garantis que les roches gabonaises, qui sont 1,5 milliard plus vieilles, sont mieux conservées. Et ça, c'est unique, c'est extraordinaire.
Alain Meunier, les sols argileux, justement, votre spécialité, ce sont les meilleures pièces à conviction aujourd'hui pour retrouver des traces en bon état ?
Oui, d'une certaine façon. Alors, je fais de la propagande pour les argiles, si vous me permettez, bien entendu. Ouais. D'abord, les argiles, c'est qu'il y en a partout.
Même sur Mars, hein ?
Même sur Mars.
C'est là qu'on trouve des traces d'eau aussi. Hein.
Absolument. Il y en a dans les météorites. Et il y en a qui étaient des argiles de sol et qui se sont transformées ensuite, au cours de l'histoire géologique, en d'autres argiles. Mmh. Et c'est cette histoire qu'on essaye de décrypter. C'est un petit peu comme des manuscrits du Moyen-Âge. Hein. Et une partie de l'écriture est effacée, mais on arrive à retrouver certaines traces, comme Mojis le disait pour le Groenland.
Ouais.
Et c'est probablement aussi une des pistes pour le passage de la chimie inorganique à la chimie biotique. Ouais. Je dis pas encore...
De l'inerte au vivant ?
De l'inerte au vivant.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce qu'il faut des surfaces minérales pour catalyser la réaction.
Ouais. Et donc l'argile s'y prête très très bien.
Très bien, là, il n'y a pas mieux, parce que l'argile, ce sont des petits minéraux. Si vous êtes petit, vous développez forcément une grande surface pour un faible volume, et en plus, elles sont construites par des feuillets superposés. Donc on multiplie encore la surface. Ouais. Ce qui fait que, grâce aux argiles, on arrive à vaincre la première difficulté de la synthèse organique, c'est d'arriver à concentrer dans un endroit précis tous les composants qui doivent réagir entre eux. Sinon, imaginez la Terre, il y a 4 milliards 4, au moment presque à la fin de son accrétion, au moment où elle a acquis sa masse et, et elle est couverte d'eau. De temps en temps, ces océans sont rejetés dans l'atmosphère par les chocs météoriques qui sont imposants.
Qui la bombardent, hein.
Évidemment, c'est une autre planète.
Ah oui, là,
le géologue de ces périodes-là, c'est un cosmonaute. Hein, oui. Il visite une autre planète.
C'est irrespirable. En tout cas, on ne pourrait absolument pas y vivre aujourd'hui. Hein, c'est ça.
C'est totalement irrespirable.
Il y a un effet de serre. Il y a beaucoup de méthane.
Il y a du méthane.
Des pluies acides.
Alors maintenant, on sait, grâce à des collègues orléanais qui ont étudié les émissions volcaniques, qu'elle est un petit peu moins réductrice qu'on ne pensait. Il y a du CO2 et du CO, de l'oxyde de carbone. Donc il y a un petit peu d'oxygène quand même, combiné au carbone. Et tout ça fait que les substances organiques qui tombent sur la Terre sans cesse avec les comètes et les astéroïdes sont diluées dans l'eau, sont dispersées, et là, il faut qu'elles se concentrent quelque part pour pouvoir réagir. Quand une réaction chimique ou quelque chose est aussi peu probable qu'une réaction chimique dans une mer aussi diluée, il faut qu'il y ait deux conditions. Soit vous croyez au miracle.
C'est pas très scientifique.
C'est l'hypothèse de Darwin. C'est la petite mare chaude dont on a du mal à se défaire.
Ouais.
Soit vous jouez à Las Vegas, au casino, un nombre incalculable de fois.
C'est ça.
Et ça, les argiles le permettent.
Ouais. Donc il y a plein de probabilités qui sont étudiées de cette façon-là,
voilà.
Et des statistiques aussi, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Gabriel Chauvet en fait. Hein.
Absolument.
C'est dans votre discipline aussi.
Absolument, absolument.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion passionnante sur les origines de la vie, avec les questions que je lui transmets. C'est promis juste après Iggy Pop.
But here you are now, gas, food, lodging, poverty. burned at the stake. For all your mistakes, mistakes, mistakes.
Gardenia, Iggy Pop et Thierry Dupin pour la programmation musicale de cette Tête au carré aux origines de la vie, séchée d'une eau avec mes invités, les auteurs de ce livre, Abderrazak El Albani et Alain Meunier. Alors les questions des auditeurs, Huguette nous dit ceci concrètement, à quoi ça ressemble une trace de vie organique, Abderrazak El Albani? Alors, prendre son microscope hein.
Oh bah pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Ça peut absolument se voir à l'œil nu.
Décrivez-nous un petit peu.
On va prendre ce qu'on connaît mieux, c'est les fossiles gabonais. Sur une plaque de sédiments, on peut avoir des formes organisées et qui sont tapissées par un minéral qu'on appelle la pyrite, c'est du fer et du soufre.
Oui.
Et ce minéral-là n'est que le produit d'une dégradation de la matière organique par des bactéries. Et on passe de l'organique au minéral. Donc, en fait, cette trace reste avec une organisation extrêmement, bien faite, avec des structures, etc. Et nous, au laboratoire, avec la microtomographie, on arrive à rentrer un peu plus dans le détail en scannant l'objet en 3D et en le regardant tous les angles, à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est pas très compliqué. Et après, on peut aller au microscope si on veut.
D'accord.
Mais c'est pas toujours nécessaire. Sauf si ce sont des microfossiles, et en quel cas il y a besoin de microscopie. Autrement, c'est tout à fait, il y a des macrofossiles. Les fossiles gabonais, on est rendu à 20 cm, 20-23 cm.
Ah oui, donc effectivement, pas besoin d'un microscope pour les voir.
Absolument pas besoin.
Par contre, au Groenland, Alain Meunier, ce sont plutôt des microfossiles dont scientifique tout à l'heure.
Au Groenland, ce ne sont même pas des microfossiles, ce sont des inclusions de graphite. C'est ce qui reste de la matière vivante après qu'elle ait subi tous les aléas de l'enfouissement et des transformations minérales. Nous ne sommes que du carbone, j'ai peur de décevoir beaucoup là.
C'est déjà pas si mal.
Mais alors, tout de même, il y a une signature biologique qui fait que ce carbone est plutôt enrichi dans l'isotope léger, le carbone 12. Tout à l'heure, on a parlé du carbone 14.
Avec la grotte de Chauvet.
Voilà, maintenant nous sommes au carbone 12. Et ces inclusions de graphite dont parlaient les auteurs des études là sur le Groenland, ce sont des inclusions de graphite qui sont à l'intérieur de phosphates de calcium, des apatites, et leur analyse anormalement riche en carbone 12 était considérée pendant très longtemps comme la preuve la plus ancienne d'une activité biologique. En fait, cette information a été démentie ensuite, car il se pourrait bien que des réactions purement abiotiques conduisent aussi
Abiotique, ça veut dire quoi?
Abiotique, c'est-à-dire sans l'intervention du vivant. Et puis, alors c'est pour ça que je suis fasciné par le nouveau Hadjitouk, c'est que à 4 milliards 100, donc encore plus vieux, on a retrouvé des inclusions de graphite aussi dans d'autres minéraux, des zircons, et il semblerait bien là cette fois que ce soit des traces patentes. Ouais. De l'activité biologique.
Donc ça, c'est nos amis québécois. Hein,
c'est nos amis québécois. Mais ce ne sont pas des fossiles, ce sont des restes chimiques, en fait.
C'est l'équipe américaine qui a publié ça.
Ouais. Alors Clémentine demande, est-ce que Lucas a réellement existé ou est-ce une hypothèse? Alors, je ne sais pas si on a cité encore Lucas depuis le début de l'émission. Alors ce serait la toute première cellule Abderrazak El Albani?
C'est la toute première cellule qui est, entre guillemets, virtuelle. Hein. On n'a jamais mis le doigt sur quelque chose qu'on appelle Lucas. C'est quelque chose qui, j'allais dire, imaginaire. Quelle est la première cellule? Notre ancêtre commun, universel, à nous tous. Donc il faut partir de quelque part, de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a...
C'est merveilleux d'y penser, en tout cas.
Mais bien sûr.
Que nous remontons tous de cette toute première cellule.
On part de quelque part, et ce qui est le plus intéressant, et le concret, ce qui a été trouvé, ce sont des filaments, les premières traces de vie, ce sont des filaments bactériens qui ont fait couler beaucoup d'encre, parce que la première découverte, c'était 3,8 milliards, qui a été contestée, parce que c'était des minéraux, etc. Mais à partir du moment où on a trouvé des traces très bien argumentées à 3,5 milliards, c'est parti à partir de cet âge-là. Donc voilà, ce qu'on a comme reste organique, le plus ancien, c'est 3,5 milliards d'années. Ce sont des filaments bactériens, tout simplement.
Ouais. Alors je disais, on remonte, mais on descend plutôt d'ailleurs de Lucas. Ouais. Hein, effectivement.
Lucas ou Lucas & Co.
Alors c'est ça, Lucas & Co. C'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs cellules au fond.
Oui, parce que pour arriver à faire un ancêtre commun, il fallait qu'il ait toutes les qualités à la fois. Alors les biologistes se reconnaîtront là-dedans, il faut pouvoir transmettre par l'hérédité, il faut pouvoir assurer un métabolisme qui est compliqué, il faut avoir une organisation cellulaire qui est déjà aussi complexe. Et il est bien possible que Lucas seul n'existait pas, mais que peut-être c'était un consortium, une famille de cellules qui, globalement, avait toutes ces qualités. J'aime à croire à la solidarité initiale du vivant il y a 4 milliards d'années.
Déjà, à cette époque.
Ça nous change.
Et oui. Voilà. Oui, c'est vrai. C'était plus simple, en tout cas, et peut-être plus efficace, en tout cas, à cette époque-là. Fanny demande, est-ce qu'il est possible que de premiers organismes ou molécules aient pu être apportés sur Terre par les comètes lors du grand bombardement?
Alors que
hypothèse
des,
cométaire.
Que des molécules soient apportées par des comètes, je crois que maintenant on peut en être sûr parce qu'on le mesure. Et encore une fois, parce qu'elles ont été reproduites expérimentalement dans les labos à Nice. Qu'il y ait un ensemencement, c'est-à-dire la panspermie, par des bactéries ou des êtres vivants plus ou moins organisés venant eux-mêmes sur des comètes résistant au voyage interplanétaire, ça c'est autre chose. C'est une théorie qui existe, mais je ne l'aime pas.
Pourquoi, monsieur ?
Je ne l'aime pas parce que c'est refuser d'affronter le problème. Si on dit que la Terre a été ensemencée par du vivant, on ne fait que reporter la question de l'origine de ce vivant.
Bah, c'est déjà pas mal, au moins, dans le questionnement.
Oui, mais ça veut dire qu'on ne sait toujours pas comment le vivant est apparu.
Certes,
à partir de l'inerte. Oui. Et voilà. Donc, il vaut mieux rester chez soi, sur la Terre, pour essayer de comprendre comment, sur la Terre, le vivant aurait pu... s'organiser lui-même.
Donc la panspermie, ça vous plaît pas, vous?
Ça ne me plaît pas.
Bon, vous allez vous faire quelques ennemis au passage.
Mais j'ai un peu l'habitude en ce moment. Bon.
Abderrazak Al-Albani, ce passage justement de l'inerte au vivant. Alors, quel est le scénario le plus intéressant? Comment, un jour, parce que la Terre a dormi pendant un bon milliard d'années quand même, avant que les premières formes de vie apparaissent.
Bon, pour moi, tout est dans le milieu, dans l'environnement. Il faut qu'il y ait des conditions pour qu'on passe... pour qu'on passe de l'inerte au vivant ou pour qu'on passe de l'unicellulaire au multicellulaire. Là, on commence, les dernières publications montrent très clairement que, l'oxygène, au départ, on nous disait qu'il y en avait très peu, maintenant, on commence à en avoir. On est rendu pratiquement à 2 milliards 700 millions d'années pour dire qu'à cette époque-là, l'atmosphère, maintenant, contenait un peu d'oxygène, alors qu'avant, c'était absolument zéro. Donc, il y a tout un tas de paramètres environnementaux qui vont jouer et qui vont permettre, si vous voulez, ce perfectionnement, le passage de rien à l'organique, enfin, entre guillemets, de rien à l'organique, de l'inorganique à l'organique ou de l'unicellulaire au multicellulaire. Et c'est ce qu'on voit au Gabon. L'histoire gabonaise le montre super bien. À quel moment exactement on est passé de l'inucellulaire bactérien au multicellulaire complexe jusqu'à 20-23 cm? Ça, on a une petite idée sur les conditions, mais le temps exactement à quel moment, ça on ne sait pas. Par contre, on sait que ça a pris du temps. Ça a pris au moins 200 à 300 millions d'années. Et c'est là où il faut faire gaffe à la notion de temps. On parle de milliards depuis tout à l'heure, etc. Mais attention, les gens, ils sont pas encore... Et le temps joue un rôle, et l'environnement également joue un rôle dans l'adaptation.
Donc il faut plein d'ingrédients un jour, d'une façon assez miraculeuse par rapport à tout ce qui se passe ailleurs dans l'univers, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, il y ait de la vie qui naisse, qui apparaisse.
La vie a besoin de conditions favorables. Elle va naître. Si ces conditions disparaissent... elle va disparaître. Donc c'est saccadé.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur Terre ?
Absolument.
C'est-à-dire qu'on a eu un épisode d'émergence, et puis ensuite, disparition ?
Plein d'extinctions.
Ça s'est passé à quelle période ?
Nous, on pense que la première extinction, c'est celle qui va arriver au biota gabonais. Le biota gabonais, la vie gabonaise, c'est la première, expérimentation d'une vie complexe organisée qui va émerger. 2,1 milliards et qui va disparaître vers 1,9 milliard dans ces zones-là.
Ouais.
Entre 2 milliards et 1,9 milliard, et on va rentrer dans cette période d'un milliard où l'oxygène va baisser, jusqu'au moment où l'oxygène revient, et on voit apparaître la fonte des diacars. Et après, une crise. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces crises-là, à chaque fois, la vie sort renforcée. Et c'est pour ça qu'il y a un super chapitre ici, sous les pieds de Darwin. C'est pas, on regarde pas sous ses pieds, on regarde en bas, dans le temps. Et on dit tout simplement que la théorie de Darwin, qui est parfaitement exact, il y a aucun problème. Mais la vie, c'est pas quelque chose de linéaire, mais c'est quelque chose qui est
en
marche d'escalier.
Voilà.
En marche d'escalier.
Enfin, il y a des effets yo-yo quand même.
Des effets yo-yo. Ça émerge. Ouais. Les conditions sont plus là. Ouais. Ça disparaît. Et ça continue comme ça. Et des extinctions, il y en a eu jusqu'à...
On a eu du bol, quand même.
On a eu du bol.
On a du bol d'être là.
On a jusqu'à quand, j'en sais rien.
Il faut... Ah ben mais, ça, voilà. Mais ça, on peut voilà. juste parler de ce qui s'est passé avant.
Exactement.
Pour le futur, c'est plus compliqué. La science n'a aucune idée de cette question-là pour le moment. On se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion avec toujours les messages des auditeurs franceinter.fr.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
On parle des origines de la vie cet après-midi dans La Tête au Carré, un nouvel extrait d'un documentaire Voyage aux origines de la Terre.
Au-delà de 300 mètres de profondeur, il fait sombre, car les rayons du soleil sont filtrés par la densité de l'eau. Et la température est glaciale. Et pourtant... cette cité de cheminées sous-marines n'est pas un mirage. Un liquide bouillant s'échappe des conduits. En s'infiltrant à travers des crevasses dans la croûte terrestre, l'eau de mer se réchauffe et se charge en minéraux et en gaz. Elle regagne l'océan sous la forme d'une mixture active qui donne naissance à ses concrétions. Si l'on ajoute tous les minéraux et les éléments issus des météorites, l'océan ressemble désormais à une soupe chimique. Il est impossible de déterminer quand et comment cela s'est produit. Mais ces différents composants se sont assemblés pour créer la vie.
Voilà, quand on parle de soupe primitive, justement, à la Meunier, c'est le scénario qui vient d'être décrit ?
Oui. La soupe primitive, c'est une vieille histoire. Ça remonte aux expériences de Miller, les célèbres expériences dans les années 50. Et l'idée était géniale et c'était un grand pas pour montrer d'abord qu'on pouvait faire des composés du vivant à partir d'une chimie abiotique. C'était la première fois qu'on fabriquait des acides aminés à partir du méthane, de l'hydrogène et de l'ammoniac. C'était ça, l'hypothèse de Miller. Et l'idée qui en était résultée, c'est qu'une soupe primitive, lui pensait à l'atmosphère, maintenant on pense plutôt à l'océan, c'est que ces composés, une fois sur la Terre ensemencés par les météorites et les comètes, vont finir par réagir. Mais dans ce qui est extrait sur les sources hydrothermales profondes, il y a un bémol quand même. Il faut faire attention. D'abord, on a pensé aux fumeurs noirs, mais maintenant c'est abandonné plus ou moins, parce que les fumeurs noirs, c'est les premières cheminées hydrothermales qu'on a découvertes, mais les solutions hydrothermales qui en sortent sont à 350-400 degrés, extrêmement acides, et impropres en fait à maintenir une chimie prébiotique, ça casse les molécules plutôt. Donc maintenant, on s'est intéressé aux fumeurs blancs. On fume ce qu'on peut d'ailleurs, hein. Et ces fumeurs blancs sont plus loin des volcans sous-marins que ne le sont les fumeurs noirs. Et c'est là où il semblerait, c'est là le modèle actuellement, que les molécules dispersées dans l'eau arrivent à réagir sur des surfaces de sulfure pour se combiner et faire des molécules plus complexes. La soupe est en train de réagir.
Ouais. Et cette question de Marc qui demande qui entre l'ARN et l'ADN et les protéines sont apparues en premier, étant donné que chacune de ces molécules ont besoin les unes des autres pour leur synthèse ou leur réplication. Ah, bah, c'est quasiment la poule et l'œuf, cette histoire.
Ah, ça, c'est la poule et... Non, mais là effectivement, à ce stade-là, et disons que on n'a rien de conservé. La première chose qui va disparaître lors d'un processus de fossilisation, c'est ça. Donc, on n'a pas du tout de traces d'ARN ou d'ADN qui va rester, etc.
On ne dit pas plus que l'ARN est apparu avant l'ADN, quand même, maintenant ?
C'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit. Après, nous, moi, mon niveau non spécialiste en biologie, je ne peux pas me permettre d'aller sur un terrain glissant. Donc, je préfère laisser ce débat à mes collègues biologistes. Et par contre, moi, je suis très intéressé quand ils m'invitent pour parler ou pour faire des présentations, de faire un petit peu le lien entre leur connaissance, eux, de la biologie à ce niveau-là, et moi, ce que j'apporte avec les données terrain, les données...
Alain Meunier, pour répondre quand même à la question très vite, là aussi.
Je trouve que pour un footballeur, il dégage botte, bien en touche.
Il botte en touche, exactement. Mais vous n'allez pas faire la même chose, vous allez peut-être nous donner une réponse.
Il y a de grandes chances tout de même que... Enfin, je suis partisan du monde de l'ARN, c'est-à-dire que lui soit apparu avant
l'ADN. Hein. Aurélien demande, que sont devenues les premières cellules, justement, en quoi ont-elles évolué ?
Ah bah ça, c'est une excellente question, parce que les premières cellules, on en a parlé au début, ce sont des bactéries. Et les bactéries, ils ont cette capacité extraordinaire de vivre dans des conditions extrêmes, des extrémophiles, voilà. Et ces cellules-là, très probablement avec ce changement environnemental, parce que à 2,3 milliards, l'oxygène commence à arriver, 2,3 milliards, 2,350 milliards, et sur 250 millions d'années, l'oxygène va continuer à croître, à pulser jusqu'à 2,100 milliards. Et donc, imaginons 250 millions d'années. Aujourd'hui, si on prend la base du Cambrien, c'est-à-dire là où on a la vie, qui est l'explosion cambrienne, 500 millions d'années aujourd'hui, 250, c'est la moitié. Regardez le chemin parcouru au niveau de l'évolution. Donc, il a fallu tout ça pour cette petite cellule qui était seule pour se dire, bon sang, il y a quelque chose qui arrive, il y a de l'oxygène, il y a des éléments nutritifs, il y a tout un tas de trucs. Il y a l'arsenic qui arrive. C'est un élément toxique, on peut l'imaginer comme ça, les cellules vont le prendre comme ça.
Donc, c'est un enrichissement permanent au cours de ce chaos que vous décriviez quand même tout à l'heure,
et
avec
ce chaos,
ces pics et ces effondrements d'oxygène.
Et la vie, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit s'organiser, coopérer. Et si elle ne coopère pas, si elle ne s'organise pas, elle va disparaître. Et au contraire, avec ces éléments nouveaux comme l'oxygène, etc., et au lieu de dire « ah ben moi je peux », elle va coopérer avec sa voisine, et là on va faire... Et puis il y a le collagène, alors on en parle peu, parce que c'est quelque chose qui va se mettre en place avec l'arrivée d'oxygène, ce sont des molécules un petit peu gélatineuses sur lesquelles pourraient se fixer des cellules, et ça pourrait favoriser aider à ce que en ce passage unipluricellulaire.
Alors c'est ça, c'était la question d'Yvan, hein, comment on est passé justement de ces cellules.
Et les bactéries vont continuer, hein. Ouais. Elles, ça traverse, il n'y a aucun problème.
Bon, bah ça défile pas mal alors apparemment, Alain Meunier. Héloïse demande également ceci, de quelle forme de vie actuelle pourrait se rapprocher des fossiles gabonais? Bah, c'est encore pour vous,
Albanie. Alors, disons que je suis toujours prudent, hein, les comparaisons abusives, je me méfie un petit peu. Quand je vois le monde des diacariens qui a été découvert début du 20e, hein, et jusqu'à présent, on essaie de faire des comparaisons avec des méduses-huiles, etc. Si je peux me permettre, alors...
Permettez-vous.
Je me permets. Alors, la seule chose, en termes de texture, de composition, je dirais que les fossiles gabonais, ils ont une texture médusaire. Hein, je dis bien texture médusaire, ça on le voit grâce à la microtomographie, donc on voit à l'intérieur, on peut couper dans tous les sens, virtuellement évidemment, et on se rend compte qu'on a quelque chose qui ressemble en termes de texture
aux méduses, jello un peu comme ça.
Absolument,
ah bon,
c'est ça notre idée, mm-hmm. et après, vous savez, on a plus de 500 spécimens et on en a tomographié pratiquement les trois quarts, donc on a vu, on a passé tout ça en revue, et aujourd'hui c'est l'idée que nous avons. Récemment, il y a un papier qui a été publié dans Plus One, où ils ont découvert des formes incroyablement similaires aux nôtres en termes d'organisation dans les océans actuels, mm-hmm. et qui ont été interprétées comme des métazoaires primitives, hein, dans ce papier-là. Et puis bah, là, quand je suis allé à un congrès récemment à Marseille, j'étais beaucoup interpellé là-dessus parce que les gens, ils ont vu la ressemblance. Mais moi, je reste prudent. Moi, je me dis tout simplement, on est à 500 millions d'années sur notre histoire et on ne va pas commencer à comparer. Il faut faire attention.
Même prudence du côté d'Alain Meunier.
Oui, parce que des organismes mous et informes, on en connaît partout.
Ouais.
Même le collègue peut rentrer dans cette catégorie.
Oh bah, parfois. Voilà.
Enfin, c'est pas publié encore. Non. C'est pas l'objet de publication scientifique. Voilà. Larry nous demande, le chemin évolutif fut-il long de l'origine de la vie à Luca, ou est-ce que Luca est l'origine de la vie?
Lucas, pour moi, est virtuel, dans le sens où on n'a jamais mis le... et je pense qu'il faut du temps, et la vie a pris son temps, et la vie coriace. Mm-hmm. Quand il y a à faire, quand il y a à manger, quand il y a ce qu'il faut, elle se développe. Quand les conditions sont plus là, elle va disparaître. Et à chaque fois qu'il y a une crise biologique, je me répète, la vie sort renforcée des crises.
C'est ce que vous disiez effectivement tout à l'heure dans cette description du chaos.
J'adore cette phrase.
Voilà, mais c'est une belle leçon à tirer. Absolument. Aussi, finalement. Alain Meunier, où est-ce qu'il faut aller sur Terre aujourd'hui pour trouver de belles argiles? Ce sera ma dernière question, très rapidement.
Les belles argiles. Ah, je crois que les argiles les plus excitantes sont celles qui probablement existent dans le manteau. On a découvert qu'il faut expliquer pourquoi il y a de l'eau dans le manteau terrestre. Mmh. Et des collègues italiens ont synthétisé des talcs qui contiennent de l'eau moléculaire.
Donc allons dans le manteau.
Allons dans le manteau.
Pour vous rendre heureux.
600 kilomètres.
Merci beaucoup Alain Meunier. Aux origines de la vie, une nouvelle histoire de l'évolution, c'est chez Duno. Merci infiniment d'être venu nous raconter cette histoire aujourd'hui.
Merci
dans la tête au carré.
Merci.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Et comme tous les mardis, la science improbable avec vous Pierre, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, vous nous parlez de la dépression.
Oui, la dépression, considérée comme le mal du XXe siècle et qui semble bien parti pour conserver son titre au XXIe. Même si ce trouble mental prend souvent sa source dans des facteurs extérieurs, on lui soupçonne aussi une origine génétique. Et cette hypothèse a trouvé une première confirmation l'an passé, ce qui alimente le débat entre scientifiques sur les forces respectives de l'acquis et de l'inné. Alors, dans une étude publiée le 29 mars, une équipe américaine s'est demandé s'il était possible d'aggraver le cas de personnes génétiquement prédisposées pour la dépression en les plaçant dans un environnement hostile et stressant, ou à l'inverse, de les soulager, voire de les guérir en les faisant vivre au paradis. Malheureusement, dans le premier cas, de stupides dispositions d'ordre éthique interdisent de lancer aux trousses de quelques dépressifs un forcené équipé d'une tronçonneuse. Et dans le second cas, la maigreur des fonds attribués à la recherche n'autorise pas non plus les scientifiques à offrir à ces mêmes dépressifs une suite au Ritz pendant 2 ans.
Alors comment on fait dans ce cas-là?
Eh bien, on fait preuve d'imagination. Alors, cette équipe a travaillé sur une variété de rats sélectionnés depuis des dizaines de générations, enfin je parle du temps des rats, pour leur sensibilité au stress, au point qu'ils sont devenus un modèle animal pour la dépression. Pendant un mois, quelques représentants de cette lignée ont bénéficié d'un régime de faveur, une cage 5 étoiles, spacieuse, avec des jouets à mâchouiller, des endroits où se cacher, s'amuser, etc. Et au terme de ces vacances de rêve, les rats ont subi l'épreuve du stress, une variante du simulacre de noyade, le waterboarding qu'affectionne la CIA. Les animaux sont placés dans un grand cylindre à moitié des pleins d'eau. Et d'ordinaire, les rats dépressifs acceptent passivement leur sort. Ils tentent de survivre en flottant, tandis que les rats normaux nagent comme des forcenés pour trouver une sortie, hélas, inexistante.
Bon, et qu'est-ce que ça a donné? Donc, toujours pour étudier la dépression.
Oui, tout à fait. Eh bien, après avoir séjourné dans leur palace, les membres de la lignée génétiquement programmée pour déprimer étaient d'humeur combative et peu décidés à se laisser couler. Le signe que ce que ces chercheurs appellent une psychothérapie pour le rat fonctionne. À l'inverse, les rats normaux, qui avaient été stressés à raison de 2 heures par jour pendant 2 semaines, eux étaient devenus dépressifs. Ils étaient résignés, ils se mettaient à faire la planche, le moral à zéro.
Oh, petit bichon.
2 conclusions s'imposent pour les chercheurs. La première partie de l'expérience montre que dans le cas de la dépression, la génétique n'est pas une fatalité. Et pour la CIA, qui, je le précise, n'a pas financé cette étude, la seconde partie de l'expérience est une preuve supplémentaire de l'efficacité de la torture par l'eau.
On va encore recevoir du courrier hein, pour nous dire que décidément, on n'arrête pas de parler des animaux qui se font maltraiter, Pierre. Voilà. On retrouve quand même cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu très vite?
Alors, je vous parlais de génétique. Et bien, cette semaine, le dossier est consacré à l'arrivée du diagnostic génomique dans les systèmes de santé grâce au progrès fulgurant des outils de séquençage de l'ADN.
Et c'est en kiosque cet après-midi. Merci Pierre, à mardi prochain.